Il est 12h45 sur France Culture. Tout de suite, la grande table d'été présentée par Maïlys Besserie.
Merci Adrien. Bonjour à tous, la grande table se poursuit au cœur de l'actualité culturelle estivale. À 13h50, l'écrivain François Sureau, toujours à Paris, rendra hommage au poète et boxeur Arthur Cravan. Mais avant cela, nous allons parler d'Initiation féminine, une bande dessinée publiée chez Dargaud au titre évocateur Pucelle, met en scène la métamorphose adolescente d'une jeune fille ficelée par les tabous d'une famille ultra-conservatrice. De sa voix intérieure, elle dépeint le silence, l'ignorance qui se meut en agressivité et en souffrance, et la société qui sous ce modèle patriarcal. Une autre expérience d'initiation, plus douce et contemplative, celle de l'héroïne d'Eva en août, film espagnol qui sort aujourd'hui en salle. La jeune femme profite de l'été madrilène, jalonnée de rencontres, de rituels, pour enfanter d'elle-même. Deux expériences d'initiation, deux créations dont nous allons parler en compagnie de leurs auteurs, Jonas Trueba et Itza Suarana, et la bédéaste Florence Dupré-Latour. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maïlys Besserie.
Bonjour à tous.
Buenos días, ¿qué tal?
On va commencer par donner l'aperçu de ce début de film, hein, Eva en août, avec ce titre espagnol, La Virgen de Agosto, la Vierge du mois d'août. Le début de ce film un peu énigmatique, Jonas Trueba, puisqu'il s'agit tout simplement d'une jeune femme de 33 ans à Madrid qui reste dans sa ville au cours d'un été.
Sí, para nosotros el título siempre es muy importante. El título de la película.
Pour nous, le titre du film est quelque chose toujours très important.
Antes de casi de empezar a pensar la película.
J'y pense toujours avant même de commencer à penser au film. Je pense déjà au titre avant tout.
Y de alguna forma, bueno, para mí este título estaba.
Et d'une certaine façon, ce titre, La Vierge d'août en Espagne, était avant tout. C'est quelque chose qui est très fort en Espagne et qui est lié avec les festivités du 15 août. Je pense que c'est un peu similaire en France, mais en Espagne, ça a une résonance très spéciale, très forte. Et pour moi, d'une certaine façon, c'est une façon de trouver un nouveau sens au titre, avec une résonance évidemment religieuse. Mais pour nous, la Vierge, d'une certaine façon, représente Ève. C'est un personnage virginal, un personnage qui est dans sa ville, en vacances, qui a décidé d'y rester et qui regarde les choses comme si c'était pour la première fois. Et en même temps, il y a le mot août, qui est aussi un personnage important dans le film. C'est le personnage principal aussi du film, le mois d'août.
Alors, vous avez coécrit ce film, Itza Suarana, avec Jonas Trueba. Vous êtes la comédienne, l'actrice principale de ce film. Eva, elle a 33 ans. Elle est à Madrid comme une sorte de touriste dans sa propre ville, puisqu'elle a juste fait l'expérience de changer d'appartement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce pas de côté qui est fait par le personnage dès le début, comme si l'appartement était un décalage en soi, le changement, le déménagement?
C'est vrai qu'on voulait exactement faire un portrait, brosser le portrait d'un moment très particulier dans la vie,
où,
d'une certaine façon, on passe d'une étape à une autre. Elle effectue presque une mue, en fait, pendant cet été particulier.
Et pour nous, il s'agissait de
dépeindre cette atmosphère si particulière qui est générée à Madrid en été, pendant les fêtes populaires, avec un personnage qui, au lieu de sortir de sa ville, de quitter sa ville, elle décide de la regarder avec les yeux d'un touriste, des yeux neufs, un regard neuf, et la surprise de ne pas prendre sa vie pour acquise. Pour nous, c'était important qu'Eva ressente les choses comme pour la première fois et essayer de devenir quelqu'un de mieux que ce qu'elle avait été jusqu'à présent.
Jonas Trueba, le regard nouveau sur la ville, le regard de l'étranger presque, hein, le regard extérieur, c'est aussi le regard de votre caméra.
Sí, claro.
Bien sûr.
Siempre es muy importante.
Pour moi, c'est toujours très important de faire le portrait de ma propre ville. Jusqu'à présent, nos films, on a toujours essayé de filmer les lieux dans lesquels on vit, les lieux qu'on aime, les rues, les bars, les espaces qui forment partie de notre quotidien. Et d'une certaine façon, je pense que le cinéma que j'aime faire est toujours lié à ce quotidien. Dans ce film, c'est encore plus présent, encore plus fort ce lien avec l'espace, parce que filmer en août à Madrid, pendant les fêtes, pendant les verbenas, les fêtes, ça nous permet de filmer à nouveau dans les quartiers originaux, centraux de la ville. Et le film est structuré autour des espaces de ce vieux Madrid, ce Madrid de toujours qui est comme un village d'une certaine façon, un lieu où les gens se rencontrent, les jours d'été, les gens qui ne sont pas partis en vacances, qui n'ont pas quitté la ville, se retrouvent la nuit dans ces bars pendant ces fêtes, justement.
La surprise, Jonas Trueba, elle vient de l'âge de cette comédienne, enfin en tout cas du personnage, 33 ans, alors cet âge christique, parce que on s'attend soit à un âge initiatique dans un film, un âge celui de l'adolescente qui passe dans le monde des adultes, ou à l'âge à la quarantaine, un âge de transition entre deux vies. Et là, cet âge de 33 ans, il correspond à une sorte de modernité, c'est-à-dire que 33 ans serait un nouvel âge, en tout cas la trentaine, un nouvel âge charnière entre la jeunesse et le passage peut-être à la maternité, qui est un des sujets centraux du film.
Sí, claro. Es verdad que es una edad simbólica.
C'est vrai que c'est un âge symbolique, ces 33 ans.
Y a la vez nos apetecía.
Et en même temps, Itxaso et moi avions envie de construire un personnage féminin qui se permette de douter à un âge auquel le doute n'est pas si évident. C'est un âge intéressant parce qu'on est déjà à une étape de maturité, mais on pense qu'on a encore le temps. On sent qu'on a encore une jeunesse, une certaine jeunesse en nous et qu'on a le temps, bien qu'en même temps, on a déjà accumulé de l'expérience et on peut avoir besoin de se réinventer, de se repenser soi-même d'une autre façon. Et le personnage d'Eva ose douter, se remettre en question, même en ce qui concerne sa profession et sa façon d'avoir des rapports avec les amis, avec sa propre ville, et aussi son rapport à la maternité qui, comme tu l'as dit, est important dans le film. C'est un thème qui est sous-jacent lorsqu'on aborde les 30 ans, la trentaine. Le sujet des enfants, de la maternité est inévitable. Donc, dans le film, nous souhaitions montrer différents personnages qui affrontent, abordent la maternité de différentes façons. C'est quelque chose qui a surgi de façon naturelle. Nous n'avions pas planifié de faire un film sur la maternité. Mais finalement, c'est vrai que ça occupe une place importante dans le film.
Alors, Itxaso Arana, les frontières de l'âge se sont donc sensiblement déplacées. En 33 ans, ça serait effectivement la question de la maternité qui serait centrale. Et l'initiation, elle serait peut-être là, dans le film. Il va y avoir plusieurs personnages, notamment celui de Dolka, qui, elle, a décidé de congeler ses ovocytes pour choisir le moment de sa maternité. Il y a aussi un autre personnage qui, elle, est déjà mère. Cette frontière-là, est-ce qu'elle serait la nouvelle frontière entre une forme de jeunesse qui se prolonge au-delà même de la trentaine et le passage à une autre vie d'adulte?
Exactement. La trentaine d'aujourd'hui semble pouvoir être comme 20 ans auparavant, comme si chaque fois nous devenions adultes, entre guillemets, de plus en plus tard. Comme l'a dit Jonas, le thème de la maternité n'était pas un thème qui, a priori, était dans notre esprit, mais nous voulions faire un portrait honnête des sujets qui nous entourent, et ce sujet est devenu assez central finalement. Pour nous, c'était important pour faire le portrait d'une féminité concrète et honnête et subjective à travers mon visage, mon corps, ma façon de percevoir le monde, mais en même temps d'être tolérante, ouverte et d'avoir un regard ouvert sur les autres féminités, sur les autres façons de voir et d'agir dans la vie. Et je pense qu'il y a un éventail qui pourrait être plus large de façon de penser ce que c'est d'être une femme aujourd'hui, quel rapport on a avec notre sexualité, avec les règles, avec le fait d'être mère, avec la liberté de prendre cette décision d'être mère ou non, à quoi on renonce, qu'est-ce qu'on gagne, que devient la vie sociale à partir de la trentaine. C'est un portrait qui essaye d'être honnête et amoureux avec un cas particulier. Bien que nous engagions avec un sujet local, ça peut de toute façon être universel, devenir universel.
Je vous propose qu'on écoute un extrait du film Eva en août.
Joder, ahora que lo pienso, pues no te he preguntado nada sobre ti en toda la noche.
Bueno, pero está bien así. Es mejor.
¿No te gusta hablar de ti?
Bueno, es que ahora mismo no sabría muy bien qué decir.
Pero, sin embargo, sí que nos puedes decir cosas a los demás, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me has llamado cobarde, me has llamado cínico, me has llamado gilipollas.
Gilipollas no te he llamado.
Vale, tienes razón, pero eso se deducía por lo demás.
No, en realidad pienso que eres un tío guay. No es tan fácil ser un tío guay. Y tú, a ratos, pareces bastante guay.
Thank you.
You're welcome.
Jonas, peut-être quelques mots sur ce passage qu'on vient d'entendre du film.
Si, es la típica situación divertida.
C'est une situation typique, amusante, qui peut arriver à Madrid pendant n'importe quelle nuit d'été, pendant les fêtes. On en parlait beaucoup avec Itxas, on partageait des expériences lorsque nous sommes restés à Madrid en août, pendant l'été. Et il y a eu des amitiés qui ont surgi comme ça, qui parfois sont des amitiés d'une nuit, ou alors qui se prolongent pendant l'été, et puis finalement, quand l'automne arrive, elles se perdent. Certaines de ces rencontres, de ces amitiés restent un peu perdues comme cela. C'est une magie un peu du mois d'août. Et donc, le film est construit un peu à travers ces possibles rencontres, ces possibles situations qui sont parfois comiques, qui sont surtout le fruit du hasard. Et il me semblait que c'était très cinématographique et qu'il y a une vraisemblance différente durant ces jours d'été, d'août, et c'est toujours bon pour le cinéma, pour construire des histoires. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le film qui ne pourraient pas se produire, par exemple, en septembre ou en février. Ce sont des situations vraiment propres au mois d'août.
Alors, il y a une mue très progressive du personnage. On assiste à l'initiation et à la métamorphose. Au début, les rencontres, c'est des rencontres essentiellement avec des personnages que connaît déjà Eva, des amis, on imagine un peu sa vie antérieure. Et puis, petit à petit, ce sont des nouvelles rencontres qui se font et qui correspondent aussi à l'avancée vers une nouvelle vie. Jonas Trueba.
Bien sûr, c'est vrai que j'aime beaucoup construire le film avec tous ces petits personnages qui apparaissent et qui disparaissent et qui finalement forgent le personnage d'Eva. Ça me plaît beaucoup que dans les films, ça puisse se passer comme dans la vraie vie. Tout à coup apparaît un ami qui a une importance, beaucoup d'importance pendant un moment et qui tout à coup disparaît. J'aime l'idée que dans les films, il puisse y avoir des personnages qui vont et qui viennent. Des personnages qui sont importants, par exemple le 3 d'août, dans la fiction, mais ils apparaissent seulement ce jour-là. Mais ils ont l'importance ce jour-là. Et le film, évidemment, le personnage principal est une femme, Eva, mais il y a beaucoup de personnages qui créent un film choral, qui donnent différentes perspectives au film.
Ça
me plaisait beaucoup cette idée. C'est quelque chose que j'avais déjà essayé dans d'autres films, mais je n'avais pas encore peut-être le cadre ou le contexte idéal, comme dans ce cas précis. Le contexte de l'été, des fêtes, qui ouvre beaucoup de possibilités de rencontres et de hasard.
Alors en même temps, le contexte, Jonas Trueba, de l'été, du mois d'août, et la structuration sous la forme d'une sorte de journal, hein, puisqu'on a le décompte du mois d'août, offre un cadre assez rigoureux au film. Et de l'autre côté, on a le sentiment que le temps est relativement suspendu et que Eva va faire tout l'été ses expériences et va finalement se trouver elle-même très progressivement, comme si il y avait quelque chose de cassé dans le rapport au temps, quelque chose de beaucoup plus distendu.
Sí, me gusta mucho lo que has dicho, ¿no?
J'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Tous les films, finalement, ont toujours un rapport au temps et au déroulement du temps. C'est vrai que la structure pour nous était claire. Nous voulions faire un film en forme de journal intime pendant 15 jours, mais ça nous plaisait aussi de penser que chaque jour pouvait avoir une liberté et même une durée différente. Donc, il y a des jours qui prennent 20 minutes dans le film et d'autres jours qui prennent 30 secondes simplement. Cette sensation du temps, de ce passage du temps, nous intéressait beaucoup. Et c'est vrai que ce qui est suggéré dans la question, c'est tout à fait vrai parce que le personnage d'Eva change aussi au fur et à mesure des jours. On pourrait dire que vers le milieu du film, le 7 août, le personnage commence à avoir des changements. Elle devient plus consciente de sa situation et même du film lui-même qu'elle est en train de vivre en réalité. En tout cas, j'avais vraiment envie de filmer cette sensation du temps, du présent pur. Et j'aime dire que le film se passe vraiment au temps présent. On ne sait rien, quasiment rien d'elle avant le début du film. C'est un personnage qui a décidé de se livrer au quotidien, au temps présent, au moment présent. Et ça lui amène des récompenses, en fait, ça lui apporte des choses, cette attitude.
Alors, en ce sens-là, elle est tout à fait virginale, comme vous y faisiez allusion. Echazo Arana, ce personnage mystérieux, il va avoir peu à peu une dimension mystique, une dimension magique. Alors, de par le contexte des fêtes religieuses autour et du mois d'août, mais aussi parce qu'il va y avoir des éléments comme une magnétiseuse qui apparaît dans le film, des éléments comme le voile, etc., qui rappellent aussi un aspect religieux et un peu magique, un peu mystique.
Oui. On
a toujours pensé que l'été et le mois d'août à Madrid généraient un contexte exceptionnel où le temps passe plus lentement et la perception s'éveille. L'essence s'éveille. Donc Eva, ce personnage qui essaye de chercher une nouvelle foi dans sa propre vie, essaye de relier les points et elle cherche un certain style de magie qui parfois se produit par hasard. Donc il y a toute une dimension du film qui effectivement ouvre une ligne entre le mystique, le populaire, quelque chose qui est mondain et autre chose qui est beaucoup plus élevé et qui nous plaisait. Le fait que le personnage puisse vivre de façon mélangée, passer du jour à la nuit, de croire à ne pas croire, d'aimer à détester, avec toute liberté. Et c'est vrai que le personnage a cette perception très éveillée et elle cherche quelque chose, donc elle trouve des signes lors de ses rencontres avec des nouveaux amis ou d'anciens amis. Et je crois que le film vraiment porte sur le fait qu'on, si on se montre ouvert, on a une attitude ouverte, et bien il nous arrive des choses exceptionnelles. Et en ce qui concerne la séance de Reiki, c'est une expérience que j'ai eue et qui a été intégrée dans le scénario plus tard. Pendant cette séance, à laquelle je suis arrivée un peu entre la surprise et avec un ton un peu humoristique, quand ils m'ont mis le voile, j'ai vraiment pensé qu'il fallait que ça rentre dans le film parce que je me suis retrouvée un peu déguisée en vierge. Et ça m'a fait rire.
Peut-être c'est l'occasion justement, Chasso Arana, de nous en dire plus sur la manière dont vous avez travaillé ensemble avec Rona Strueba.
Oui, nous avions déjà travaillé avant sur un projet précédent qui s'intitule La Reconquista. Et moi, j'étais actrice, simplement. Et je connaissais tous les films de Jonas. Et j'adorais le monde qu'il exhibait, parce qu'il me semblait qu'il comprenait très bien les choses et je l'admirais beaucoup en tant que cinéaste. Lui, il avait vu mon travail théâtral, parce que j'écris et je mets en scène également. Et ça a été donc très positif pour moi de recevoir cette invitation et de pouvoir écrire avec lui le film. On a fait un premier scénario très rapide en 10 ou 12 jours, l'été précédent le tournage. Et en fait, la nuit, nous allions aux fêtes et puis la journée, nous écrivions. Et ensuite, nous avons laissé le scénario ouvert pendant toute l'année. Il y a eu des révisions. Et je pense que le cinéma de Jonas est très vivant, très vibrant. Et il est très lié à la vie. Donc, il a une façon de filmer qui permet d'obtenir quelque chose de très réel. Donc, on avait l'impression qu'on filmait de façon comme pour un documentaire, parce qu'en fait, on allait vraiment dans ces fêtes populaires et on essayait vraiment de faire vivre les personnages dans ce contexte.
Je vous propose d'écouter un autre extrait d'Eva en août. Dans cet extrait, Jonas Trueba, on entend deux choses. Premièrement, la chanson et la musique qui nous rappelle aussi les corps dans ce film, puisque l'expérience de l'initiation, elle passe aussi par la liberté des corps, par la danse, par ces fêtes du mois d'août. Et dans un deuxième temps, cette voix d'Eva qui fredonne, qui est comme une sorte de voix intérieure qui peu à peu s'extériorise. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce procédé narratif que vous avez mis en place dans le film ?
C'est
un peu ce que je disais tout à l'heure. Vers le milieu du film, on voit qu'il y a une transformation. À la fois le film se transforme et le personnage d'Eva. Et c'est précisément au milieu du film qu'apparaît cette voix intérieure, comme tu dis, qui apparaît à d'autres moments, mais cette voix intérieure, c'est précisément ce qui nous permet de comprendre qu'Eva s'approprie de sa situation, d'elle-même et aussi du film. Et la chanson en question qu'on vient d'écouter est chantée par Sole Amorente, qui est une chanteuse de flamenco, la fille d'une tradition de cantaores flamenco. Et je m'identifie beaucoup à elle parce qu'elle est la fille d'une famille d'artistes et moi aussi, je suis le fils d'un cinéaste et j'ai toujours ressenti une affinité avec Solea et je sens aussi que les deux nous cherchons toujours notre propre chemin. Elle comme chanteuse, moi comme cinéaste et nous cherchons notre propre voix. Précisément. Et d'une certaine façon, je dirais que le personnage d'Eva cherche aussi sa propre voix. Elle se cherche elle-même. C'est pour cela que cette chanson, qui parle du fait d'avoir le temps ou de se donner le temps à soi-même, c'est pour ça qu'elle nous plaisait autant à Itxaso et à moi pour penser le film.
Alors peut-être un mot sur les corps, Jonas Trueba, le corps dans le film, l'expérience elle passe aussi par là, l'expérience de l'initiation, mais c'est aussi à travers la Vierge une référence à l'art, à l'histoire de la peinture, et c'est comme si tout ce monde, toutes ces racines religieuses et mystiques étaient désormais confiées à un art laïque, le cinéma.
Il y a une sorte de mélange, Itxaso a essayé de l'exprimer auparavant aussi, avec toutes les questions religieuses qui d'une certaine façon sont présentes dans le film, les vierges par exemple qui apparaissent, la dame d'Elche que visite Eva dans le musée au début du film. Il y a une dame ibérique aussi qui a les mains posées en forme de coupe qui fait référence à la scène du Reiki aussi. Car on voit que les amis parlent de cette idée du bol ou de la coupe comme un utérus. Tout ceci, ce sont des symboles que nous trouvons au cours du processus de création du film et qui m'étonne réellement parce que ce ne sont pas des symboles que j'avais recherchés. C'est des symboles que nous avons trouvés dans l'espace du musée, par exemple, sur les lieux même. J'aime que le processus de création soit toujours un processus ouvert et c'est vraiment bien lorsque les symboles apparaissent et nous font percevoir qu'on est sur la bonne voie. Il y a d'autres symboles dans le film. Comme par exemple les étoiles lors d'une autre séquence ou le symbole du pont où le personnage d'Eva rencontre Agos. Le film se construit avec des petits symboles religieux et païens. Et ce mélange me semble vraiment important parce qu'il existe dans la vie réelle des Espagnols et je crois aussi peut-être des Français, même si c'est dans une moindre mesure. Mais en Espagne, vraiment, on continue à coexister avec toute une symbologie chrétienne, religieuse. Et en même temps, nous qui sommes athées, nous avons un rapport parfois conflictuel et parfois naturel avec cela. Et je voulais aborder ce sujet dans le film. Il y a une scène, par exemple, lorsqu'elle voit passer la procession de San Cayetano sous ses fenêtres. Je crois que c'est une scène importante parce que je pense qu'elle ne descendrait jamais pour défiler avec la procession dans la rue. Elle regarde depuis son balcon et en même temps, elle a quand même une émotion. Et certainement, elle ne pourrait même pas l'expliquer elle-même. Et je crois que moi non plus. Mais c'est ce qui me plaisait, c'est ce que je voulais filmer.
Merci beaucoup Jonas Trueba et Itxaso Arana. Et merci à Olivia Bernal d'avoir assuré bien sûr la traduction. Je rappelle que votre film Eva en août sort aujourd'hui en salle.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Paraît qu'elle dort sur une branche tout en haut de ses coyotes. Qu'elle ne se nourrit que d'oranges et des livres de Kafka. Paraît que sa peau est si blanche qu'elle aveugle les colombes. Que son sourire est plus étrange que celui de la Joconde. Pauvre Alice, elle est figée dans l'histoire qu'on a racontée sur elle.
Dans Claude Pelgag, Fur Elise, extrait de son nouvel album Notre-Dame des Sept Douleurs, paru chez Secret City Records. La grande table d'été continue en compagnie de Florence Dupré-Latour, membre du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme et auteur de la bande dessinée Pucelle, publiée aux éditions d'Argo. Bonjour.
Bonjour.
Quelques mots peut-être pour raconter le début de cette histoire qui est une histoire autobiographique. Alors c'est le premier tome d'une future trilogie, c'est ça ?
Alors c'est un peu compliqué, un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est une trilogie qui est axée sur trois grands thèmes qui se concentrent sur l'enfance de 0 à 18 ans. Le premier étant consacré aux animaux, à mon rapport aux animaux qui s'appelle Cruel. Celui-ci, Pucelle, se concentrer sur mon rapport à la sexualité, le rapport à la sexualité d'une petite fille, donc de 0 à 18 ans, et connaîtra deux tomes, effectivement.
Alors, dans ce tome, ce qui est visité, c'est la question de l'initiation, plutôt de la non-initiation, Florence Dupré-Latour,
voilà.
Pour être plus précise. peut-être d'abord raconter ce milieu assez précis qui est décrit, c'est un milieu extrêmement conservateur, catholique, d'expatriés.
Alors, quand on vit dedans, on ne s'en rend pas compte. J'ai pu, en rencontrant d'autres personnes, prendre la mesure du milieu dans lequel j'ai pu vivre, qui est un milieu assez fermé, finalement. D'abord à cause de l'expatriation, puis évidemment dans sa dimension religieuse et bourgeoise, qui a généré un entre-soi et un repli sur des valeurs communes, sur un univers fermé, puis en vivant dans une grande maison assez coupée de tout, en ayant bien sûr un rapport aux autres grâce à l'école ou à cause de l'école. Mais oui.
L'école elle-même relativement rigide. C'est pas n'importe quelle école, en tout cas ça dépend des lieux, mais il va y avoir l'école catholique en Guadeloupe notamment.
Oui.
Il va y avoir des écoles qui sont elles-mêmes.
Alors,
doublonne l'éducation assez...
Pas forcément stricte, pas plus stricte qu'une autre, mais qui va assez doucement...
Véhiculer les mêmes valeurs.
Véhiculer des visions du monde.
Alors à travers ces expériences-là, tout va se passer par la bande dessinée. La bande dessinée que vous utilisez est une forme de mélange entre des dessins enfantins et des dessins très adultes, ce qu'on connaît aussi de l'anthropomorphisme avec des adultes un peu animaux. Et ce ne sont pas n'importe quel adulte qui sont croqués d'une manière ou d'une autre. Florence Dupré-Latour, est-ce que vous pouvez nous parler des choix esthétiques que vous avez pu faire pour chacun des personnages ?
Alors, je ne sais pas si j'ai procédé par choix, mais plutôt par intuition. J'ai choisi de dessiner de manière assez simple une histoire assez compliquée, ce qui me semblait une histoire complexe, une histoire avec beaucoup de choses à dire. Donc je pouvais pas avoir un travail de dessin qui soit qui me prenne trop de temps. Je ne pouvais pas avoir un travail de dessin qui porte en lui une forme de lourdeur ou qui s'approche trop de la réalité, bizarrement, puisque je raconte des souvenirs qui sont eux-mêmes déformés. J'avais besoin de déformer mon dessin de la même manière que peuvent l'être les souvenirs.
Alors, c'est vrai qu'il y a cette technique de l'aquarelle qu'on retrouve avec quelque chose qui se dilue un peu, avec des souvenirs qui apparaissent comme des flashs par moment. On a le sentiment d'assister à une sorte de montage en direct des dessins.
Oui. Alors, c'est le propre de la mémoire également. J'ai un rapport à la bande dessinée qui est très particulier. J'ai pas vraiment choisi d'en faire. Je dirais que je me suis retrouvée à en faire sans avoir le choix cette fois-ci, et parce que j'étais comme appelée par cette forme de narration qui, je savais que j'avais l'intuition que j'allais écrire sur mon enfance, je ne savais pas quand, et cette forme de narration qui reprend le processus de la mémoire. Quand on se rappelle de ses souvenirs, on n'a pas un fil qui est étendu, qui dans sa temporalité ressemble à ce qu'on peut vivre dans le temps présent, mais on se retrouve avec des arrêts sur image.
Et même un accès à la mémoire de l'inconscient, puisque on a le sentiment que d'un traumatisme à l'autre, on arrive à recréer l'histoire.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour revenir à ces arrêts sur image, on retrouve dans la bande dessinée donc ce mécanisme de l'ellipse narrative qui est très très proche, qui est similaire au mécanisme de la mémoire. J'ai relu Annie Ernaux ces derniers jours dans la chaleur de la canicule, et elle parle de ces arrêts sur image. Bon, cette fois-ci, elle avec le biais de la littérature, mais ces livres même sont des arrêts sur image, des temporalités assez courtes, qui peuvent se rapprocher d'une certaine manière de ces ellipses qui sont cette fois-ci constantes en bande dessinée.
Alors vos années, elles ne sont pas construites autour de mots, mais plutôt de silence, si ce n'est qu'il y a aussi quand même un grand nombre d'interdits et d'autres images qui sont véhiculées. Une qui revient, c'est cette petite fille, votre avatar de petite fille, qui finalement traite toutes celles qui évoquent le corps et le corps sexualisé de prostituées.
Oui, c'est un petit peu brutal. C'est un petit peu brutal. Donc cette petite fille qui vit dans un milieu, je dirais bourgeois, chrétien, qui lui semble tout à fait naturel. Elle pense d'ailleurs que tout le monde doit être comme ça, comme tous les enfants.
Avec un père taciturne, un peu brusque.
Pas méchant, mais un père qui disons ne s'investit pas du tout dans l'élevage des enfants. Ce n'est pas son domaine culturellement. Et donc cette petite fille...
Vous dites élevage parce qu'ils sont nombreux ou vous parlez de l'éducation ?
Oui, de l'éducation en général. Et donc cette petite fille, elle va se poser des questions, bien entendu, sur un domaine qui lui semble... Elle sent que sa vie est merveilleuse. Elle l'est, hein, par de très nombreuses façons, puisque ce sont des gens qui sont riches, ce sont des gens qui ont accès à une certaine forme de culture, qui vivent sous des latitudes plaisantes. Mais elle sent que quelque chose ne va pas. Elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas comment le formuler. Et cette certitude que quelque chose ne va pas va se confirmer petit à petit dans ses questionnements autour de la sexualité, ce qui se passe en dessous de la ceinture. Le fait de ne pas avoir de réponse, puisqu'elle va poser des questions, elle aura des réponses mignonne, mais qui finalement par exemple, sa maman lui explique que c'est la petite graine qu'on va planter dans le ventre que le papa plante dans le ventre de la maman. C'est charmant quand on a 6 ans, mais on sent bien que ça n'est pas vrai. Et elle va donc devoir faire ses recherches elle-même. Il y a cette espèce de vide, ce creux en elle, cette absence d'initiation, justement.
Qui devient tragique d'une certaine manière, puisque quand arrive la période de ses premières règles, etc., on a le sentiment que tout ça, chaque manifestation du corps se transforme en traumatisme. Il y a une violence immense qui monte chez le personnage.
Oui, alors une angoisse très forte, puisque quand on ne nous dit rien, on imagine tout. C'est par exemple le propre des secrets de famille, hein, qu'on connaît tous. Et la puissance de l'imagination enfantine est beaucoup plus importante, hein, que celle des adultes.
D'ailleurs, vous pouvez nous dire comme vous la représentez, hein, c'est une sorte de boule avec des tentacules.
Oui,
l'angoisse,
oui, oui.
Voilà, grandit.
Oui, oui, oui. Donc cette angoisse, elle concerne beaucoup de petites filles et de jeunes filles face à l'arrivée de quelque chose qu'on pressent et qui est vécu malheureusement, hein, de manière négative, parce que ou on ne nous dit rien, ou alors on ne nous dit pas assez. On peut avoir la sensation que on entre dans un monde qui va nous être défavorable, le monde de la sexualité et de la maternité. Et donc tout cela génère bien sûr des angoisses très fortes que j'essaye de figurer.
Alors parlez-nous de ça, de votre dessin, Florence Dupré de la Tour. Comment se matérialise ? Parce que c'est un monde quand même où les yeux sont exorbités dès qu'il y a une nouvelle annonce qui est faite, où les corps peuvent être un peu comme ça écartés, disloqués. Il y a un jeu aussi entre les sépias et les noirs et blancs, une teinte un peu rose qui arrive régulièrement. Ça, c'est des vrais choix pour formaliser les impressions de l'enfant.
Oui, j'ai choisi une tonalité qui ensuite se traduit par le dessin, qui est une tonalité qui oscille toujours entre le drame et une dimension comique. Donc c'est un récit tragicomique.
Comique et, trash.
Trash, je ne sais pas, mais tragique, oui. Et trash, pourquoi ? Peut-être parce qu'on voit du sang et un sang qui dans les imaginaires est souvent considéré comme sale et souillé. C'est le sang des règles, le sang de l'impureté.
C'est son sentiment à elle, en tout cas, dans son éducation religieuse.
Oui.
Elle, il y a une sorte de haine de soi qui monte.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Absolument. Et cette traduction par le dessin, elle va lorgner vers la caricature, avec des on va lorgner vers le manga un petit peu, mais également des une famille de dessinateurs et de dessinatrices que tout le monde connaît. On va voir du Sampé, du Bretéché, on va aller regarder Catherine Meurice aussi, Marion Montaigne. Donc ce dessin assez enlevé.
Dans la surenchère.
Oui, dans l'esprit du dessin plutôt. Et la surenchère va plutôt lorgner vers le manga.
Alors, cette question des couleurs, vous avez beaucoup travaillé ces teintes-là. Il y a à la fois la dimension diluée de l'aquarelle, avec les dessins parfois un peu flous, qui laissent aussi une marge onirique.
Oui, bien sûr.
Au dessin. Et puis, il y a ces teintes du gris au rose, comme ça. Alors, à la fois, il y a un côté enfantin là-dedans, et puis en même temps, il y a un côté effectivement tragique qui revient souvent presque un côté thriller.
C'est une histoire d'horreur, peut-être. Je dirais que l'usage de la couleur ici est un usage symbolique fort, puisque bien sûr de l'utilisation de l'aquarelle également. D'abord parce que le rose est une couleur qui est assignée aux petites filles, et le brandir comme un étendard, l'assumer pour en faire autre chose me semblait important. C'est un usage du rose qui va s'étendre sur une palette assez large de roses, et il se trouve que c'est la palette des règles. Hein. Donc on a un rose grisâtre, un brun, qui va jusqu'au rose éclatant et rouge.
Alors ça, c'est le parti pris aussi de la petite fille qui comprend très bien l'asservissement qui l'attend si elle suit ce modèle familial-là.
Oui. Oui.
Et qui trouve que les héroïnes de livres féminines sont nulles.
Mais c'était
et
vrai.
Et qui préférerait, du coup, trouver autre chose, une autre voie là-dedans.
Alors,
c'est votre parti pris aussi, en tant que dessinatrice, en tant que bédéaste.
Je vais parler du personnage de la petite fille. C'est une autobiographie, mais je parle toujours à la troisième personne. C'est comme s'il y avait mon moi présent que je formule à la première personne. La jeune fille de mes souvenirs que je tutoie, et puis cette troisième personne qui est celle du livre, que donc j'en parle à la troisième personne et je dis la petite fille. Et donc cette petite fille. Elle expérimente la liberté d'abord dans une maison, une grande maison à la campagne, et petit à petit elle se rend compte que elle va peut-être connaître le sort de sa mère, qui d'ailleurs n'a pas l'air d'en souffrir plus que ça pour le moment. qui est d'avoir beaucoup d'enfants et d'être au service de son mari et de ne pas travailler, de ne pas avoir d'autonomie financière.
Alors elle se rend compte aussi que c'est le cas de tous les amis de ses parents. Petit Absolument. À petit, le tableau s'agrandit, la fresque s'agrandit.
Absolument. C'est une petite fille qui n'a pas de contre-exemple, ou alors peut-être qu'elle ne veut pas les voir, hein, mais elle n'a pas de contre-exemple fort de femmes émancipées qui prennent leur destin en main. Et donc, elle imagine que c'est ce qui l'attend.
Et à travers ces figures-là, il y a la figure de la mère assez monstrueuse à certains égards, en tout cas sur le plan du dessin aussi, qui est une femme patriarcale. Elle aussi, elle porte cette société-là qui attend la petite
oui,
fille.
C'est une femme de droite, hein, pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Hein. C'est une femme misogyne, hein, comme j'ai pu moi aussi l'être, et je continue à l'être malgré moi. Parce que quand on vient d'une culture, c'est difficile de s'en débarrasser. L'important étant d'essayer de se soigner.
Avec cette scène très drôle quand même du frère qui ne comprend pas le jour où il voit un autre enfant qui a un zizi, pense qu'il est le seul au monde.
Le seul au monde, oui.
À en posséder un.
Oui.
Parce qu'il est le seul garçon de la famille.
C'est le seul garçon de la famille. Le papa est très absent. Et vivant dans cette maison, repliée sur elle-même, cette famille voit finalement assez peu de garçons. Ce petit garçon, donc mon petit frère, n'a pas accès à d'autres sexes de petits garçons. Il en voit un, il devient fou. Il le tape en disant non, que moi, mon garçon. Et c'est... On voit aussi chez le petit garçon son territoire mental qui est très très occupé par l'absence ou la présence. Donc lui, c'était l'absence de d'autres garçons, et chez la petite fille, c'est l'absence l'absence totale d'indication sur ce qui va lui arriver quand elle a ses règles. C'est une scène extrêmement, que je trouve extrêmement drôle. Moi, tout me fait beaucoup rire. Avec du recul, en le vivant, c'était une autre chose, bien entendu.
Bah, elle passe 2 heures à pas s'asseoir en classe.
Ouais.
Elle met 1 kilo de papier toilette dans sa culotte.
Oui, ne pas savoir, c'est forcément imaginer des choses monstrueuses. Et bon, après, avec les règles, c'est un petit peu particulier, puisque il y a une honte et un tabou qui sont très très forts. Et n'importe quelle jeune fille a eu peur de faire une tache sur son pantalon au collège ou au lycée.
Ce qui est intéressant, c'est aussi l'empathie que vous pouvez créer avec les personnages de l'enfance, même malgré l'aspect extrêmement comique, il y a quand même une critique acerbe de cet univers des adultes, finalement très détaché, avec parfois des dissonances entre ce que fait le dessin et ce que fait le texte. Cet humour, il naît aussi de ça, de cette contradiction parfois entre un discours très bienveillant des adultes et puis des enfants qui sont tout seuls avec une souffrance inutile.
Tout à fait. Une souffrance absolument inutile. C'est-à-dire que il me semble que toute cette angoisse que nous sommes nombreux, je pense que je peux parler aussi pour les garçons, hein, qui vont développer d'autres angoisses que les petites filles, eux aussi sont puceaux, ils vont développer encore des univers mentaux qui les regardent. Les petites filles ne vivent pas les choses de la même façon, mais développent des angoisses, des terreurs, parce que on ne les accompagne pas avec bienveillance. On ne leur dit pas assez de choses, en leur disant « c'est pas grave, t'inquiète pas ». Ou alors, on ne leur apprend pas à se défendre ou à parler. Donc ce silence des petites filles face à l'arrivée des jeunes garçons en plus de la sexualité, des transformations du corps, c'est Virginie Despentes qui m'avait avec une seule phrase transformée. Elle expliquait, en tout cas non, elle prenait à partie les filles en leur disant mais ces garçons, s'ils s'y prennent mal, ok, d'accord. Mais vous, qu'avez-vous fait pour les remettre à leur place, pour leur expliquer qu'il ne fallait pas faire se comporter comme ceci ou comme cela? Et c'est vrai que je ne l'avais jamais fait. On ne m'avait pas appris à le faire. On ne m'avait pas appris à me défendre.
À travers la forme de la bande dessinée, on assiste à une sorte d'immersion du côté, vraiment des émotions profondes. C'est une immersion dans l'angoisse, en réalité, qui est assez humoristique, mais c'est quand même une immersion dans l'angoisse.
C'est une immersion dans une psyché. J'essaye, à travers une série...
Une psyché troublée, une psyché inquiète.
Oui, une psyché inquiète, oui. C'est vrai. Et j'essaye, à travers des anecdotes qui me semblent amusantes, de dresser le portrait de ce territoire intérieur.
Je vous propose d'écouter Johann Sfar parler sur France Culture. C'était le 15 septembre 2018.
Ce dont on ne parle pas assez quand on évoque les bandes dessinées, c'est la lettre. La même ligne qui va dessiner les lettres, les bords de cases, le personnage. Il y a quelque chose... Une journaliste m'a demandé il y a quelques heures si la bande dessinée, c'était de l'oralité ou pas. J'ai adoré cette question, parce que oui, profondément, c'est de l'oralité. En ce moment, beaucoup de grands philosophes se plaignent de la disparition de l'écrit au profit de l'oral, parce qu'il y a des films YouTube partout, et on se dit c'était... Mais on ne se rappelle pas, pourtant c'est des vieux philosophes qui parlent, qu'à l'époque des Grecs, qu'à l'époque des anciens Hébreux, quand l'écrit est arrivé, tout le monde a vu ça comme une catastrophe. On se dit, mais le vrai enseignement, il se fait à l'oral, ils sont entre le maître et l'élève, et si en plus ils peuvent se tripoter, c'est encore mieux. Mais si, vous voyez bien dans le banquet de Platon, quand le jeune homme veut aller contre Socrate, et Socrate lui dit, ce voisinage-là, t'apprendras pas grand-chose. Mais au moment où l'écrit est arrivé, et a voulu figer le savoir, c'est là qu'on est parti vers le littéralisme et vers tout ça. Donc à mes yeux, la bande dessinée, c'est une manière de se sauver du littéralisme. C'est une manière de montrer un personnage qui dit, de voir la tête qu'il fait, de voir ce qui lui arrive, et de lutter entre ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de faire. Et le jeu de la bande dessinée, c'est il dit quelque chose, mais il est en train de faire autre chose.
Alors, c'est Johann Sfar qu'on entendait, c'est pas un hasard, Florence Dupré-Latour, puisque vous avez travaillé avec lui sur Petit Vampire.
Absolument.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire sur, en quelque sorte, la multiplicité des voix qu'offre la bande dessinée, hein. Il y a la voix de la couleur, il y a la voix parlée, le texte, il y a aussi le dessin, mais il y a même tout ce qui est hors champ aussi de ce dessin.
C'est un art extrêmement complexe. Extrêmement complet pour toutes ces raisons, c'est qu'on va pouvoir jouer et mettre l'accélérateur sur énormément de possibilités. Pour cette bande dessinée Pucelle, j'ai choisi d'avoir une voix off assez sérieuse et des séances dialoguées beaucoup plus légères, beaucoup plus amusantes. Effectivement, on va pouvoir, et ça c'est la force du langage dessiné, placer des images qui vont travailler l'inconscient du lecteur, vont travailler sa façon de rêver, sa façon de d'utiliser des symboles.
Alors ça, c'est tous les à côté, par exemple, de l'histoire. Il y a ce rapport à la nature avec Nago.
Oui, oui.
La maison de campagne, qui est comme une sorte d'Éden pour la petite fille de la bande dessinée.
C'est un Éden, oui.
Et ce retour aux sources, à la forêt, il y a une dimension presque de conte que l'on retrouve, qui est un pas de côté par rapport au thème, mais qui, en même temps, est une nouvelle porte vers l'imaginaire du lecteur.
Oui. Alors, ça n'est pas un pas de côté, puisque la question du territoire, pour les jeunes filles, pour les femmes, par la suite, liée à la question de la liberté de se mouvoir, la liberté de se mouvoir sans le regard d'autrui, sans le fait d'être traqué, d'être surveillé, observé et donc dirigé. Eh bien, c'est l'expérience de cette petite fille dans cette espèce de très très grande maison avec plusieurs hectares de bois qui va évoluer sans ce regard-là. Puisque sa mère ne la surveille pas, elle fait ce qu'elle veut.
Elle va même pouvoir monter à cheval,
oui.
et diriger, elle.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis sans le regard des hommes, puisque c'est quasiment un monde sans hommes dans lequel vit cette petite fille. Puisque le père est très absent et le petit frère, il est presque asexué puisqu'il est plus petit.
Donc c'est quasiment un rapport à un état naturel fantasmé, asexué en tout cas, où la question des genres ne serait pas la première.
Oui, un état naturel, alors même au-delà du genre, un état de liberté. L'expérience de la liberté, elle transcende le genre. Elle n'a rien à voir, d'ailleurs.
Elle devrait n'avoir rien à voir.
Elle devrait
elle
avoir
a parfois
rien
à voir.
Bien sûr, bien sûr. Après, vous parliez du cheval, cette expérience de monter à cheval qui fascine beaucoup les petites filles quand on va dans des clubs hippiques. On voit beaucoup de petites filles ou de jeunes filles et qui ont un rapport quasiment amoureux avec leur cheval. C'est très étonnant, hein, parce que, à mon sens, et c'est mon expérience, après d'autres personnes peuvent avoir une expérience différente, distincte, monter à cheval, à cet âge-là, c'est dominer, est-ce que c'est sa vie, est-ce que c'est un être vivant, je ne sais pas, mais dominer et diriger.
Merci Florence Dupré-Latour, je rappelle le titre de votre bande dessinée, Pucelle, et c'est publié aux éditions d'Argo. Tout de suite, la fiction imagine le monde de demain de France Culture avec la SACD et en partenariat avec le Théâtre de la Ville en soutien à la création et aux auteurs. Aujourd'hui, le Poule de Gaspard Chauvelot, réalisé par Laure Egoroff.
Le Poule. Une fiction écrite par Gaspard Chauvelot.
Dans l'histoire d'Œdipe, les dieux sont en colère parce que parmi les habitants de Thèbes, il y a un citoyen ou une citoyenne qui a commis un crime abominable. Donc, ils envoient la peste sur la ville en disant que pour que ça s'arrête, il faut démasquer et châtier le coupable. Le roi Œdipe finit par découvrir que c'est lui parce qu'il a tué son père et couché avec sa mère sans le savoir. Il se crève les yeux et tout rentre dans l'ordre. Donc j'avais proposé un truc un peu dans ce goût-là avec le coronavirus à la place de la peste.
Enfin, je vois pas le rapport entre tuer son père, coucher avec sa mère, se crever les yeux et le Covid.
Mais enfin, tu vois l'idée. J'avais un peu adapté à 2020. J'aimais bien le petit côté enquête policière. Le public aurait pu faire des hypothèses et tout. Et puis c'est toujours fédérateur, non, de chercher un coupable.
Si ça vous embête pas, on va se recentrer sur l'appel à projet. La prod attend nos propositions pour la semaine prochaine, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme monde d'après?
Attendez, je me mets au paperboard. Ils sont où les feutres?
Mais ils sont dans le tiroir.
Donc on jette les idées en vrac, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ok, effondrement du capitalisme.
Effondrement. Guerre nucléaire.
Ouais, pillage, émeute, tout ça.
Avènement de l'utopie socialiste.
Mais ça, c'est un peu pareil que l'effondrement du capitalisme, non?
C'est pas grave, pour l'instant, on fait que jeter des idées.
Bon bah, à ce compte-là, avènement de l'utopie nationaliste.
Néofascisme.
Attends, pas trop vite, là, j'ai pas le temps de noter.
Avènement de l'utopie anarchiste.
Dictature religieuse.
Religieuse. Tu pensais à une religion en particulier?
Elle s'y prête toute, on affinera plus tard si besoin.
Invasion extraterrestre.
Si on va vers là, on a toutes les hypothèses apocalyptiques et post-apocalyptiques.
Bah oui, bien sûr. Oui.
La nature reprend ses droits.
Catastrophe écologique à grande échelle.
Causée par l'épidémie?
Causée par l'épidémie, ou alors on peut aussi imaginer que non, que l'épidémie c'était une première étape, et après on installe une nouvelle catastrophe un peu plus balèze que la précédente, genre tous les 2 à 5 ans, des tsunamis, des sécheresses, des tornades, à chaque fois à une échelle plus ou moins mondiale.
Réveil de Godzilla.
Oui, attaque de monstres en général.
J'adorerais qu'on parte là-dessus.
On a aussi le réchauffement climatique avec tout ce qui est tornades, montée des eaux, tsunamis, sécheresse.
Pénurie de matières premières avec développement genre Mad Max.
Oh, c'est bien ça.
On n'a jamais eu un vrai gros tremblement de terre mondial ou une vraie bonne grosse chute de météorite géante?
Ah ouais, ce serait bien ça aussi.
La météorite, on l'a déjà fait pour les dinosaures, ça va faire redite.
Ah, merde.
Les dinosaures, c'était une météorite, on est sûr de ça?
Non, on n'est pas sûr à 100%, mais enfin, il y a quand même beaucoup de chance.
Si tu veux aller vérifier dans les archives, fais-toi plaisir.
Non, ça va.
Épidémie zombie.
À partir d'une mutation du coronavirus?
Pourquoi pas?
Zombie qui marche ou zombie qui court?
Mais les deux, on verra plus tard.
Mais tout ça, ça peut converger vers une fin du monde, hein?
C'est pas obligé. Soit ça fait une fin du monde, soit ça mène vers une nouvelle civilisation. Là, de toute façon, on nous demande juste de faire une proposition sur le court et le moyen terme. À mon avis, les clients n'envisagent pas une fin du monde avant 10-15 ans.
J'entoure tout. Je fais deux grosses flèches. Une flèche fin du monde et une flèche pas fin du monde.
Enfin, au bout d'un moment, il faudra bien qu'on la fasse, la fin du monde, non?
La prod dit que les clients sont vachement frileux là-dessus. Ils ont peur que le public soit pas prêt.
Moi, je trouve qu'on va chercher trop loin. Le monde d'après, ça peut pas juste être la suite logique du monde d'avant?
Le service marketing nous demande de penser un peu disruptif.
Ils vont pas nous apprendre notre boulot non plus, hein. C'est pas eux les scénaristes. Après tout, nous, on passe notre vie à l'imaginer le monde d'après. On n'a pas attendu le coronavirus. Perso, ça me gonfle un peu de devoir tout reprendre à zéro juste parce qu'une bande de pseudo-créatifs a décidé qu'il fallait penser disruptif.
Mais je te trouve dur. Reconnais que ça a ouvert vachement de possibilités. Le confinement, par exemple, c'est génial. On n'avait jamais réussi à créer un récit aussi immersif à l'échelle mondiale.
Moi, je trouve pas, justement. Le confinement, c'est une fausse bonne idée. Une innovation formelle, je suis désolé, mais ça vaut rien si c'est pas au service d'un vrai propos. Là, c'était hyper cheap. Il se passait rien, on était hyper limité dans les péripéties. Le spectateur, au bout de 2 jours, il s'ennuyait à mourir. C'est comme la 3D au cinéma. Si vous mettez de la 3D dans un mauvais film, ça fait un mauvais film en 3D, point à la ligne. Je vous rappelle qu'en janvier, on pensait tous que le coronavirus, ça marcherait jamais, que ça resterait un petit arc narratif secondaire un peu cheap, et là, tout d'un coup, sous prétexte que les prods chinoises avaient mis plein de pognon sur la table, il a fallu se la jouer coproduction internationale et sortir les forceps pour en faire un film catastrophe.
Ouais, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé. Hein.
Mais je sais, mais ça me gonfle. Ça me gonfle.
On peut peut-être chercher un juste milieu. Dans un premier temps, on reprend le monde d'avant là où on l'avait laissé. Mais on pourrait combiner ça avec ce que tu disais, un retour à intervalles réguliers de cataclysmes de gravité croissante qui permettrait un glissement progressif vers un vrai monde d'après avec potentialité de fin du monde.
Oui, je pense que si on continue le monde d'avant, tout ce qui est catastrophe écologique, ça peut être crédible. Thibaut, ça t'irait.
Ouais.
Les autres?
Si on assume vraiment les cataclysmes, moi ça me va.
Moi, tout me va.
Bon, de toute façon, même si on part sur un monde d'après qui soit comme un monde d'avant, on peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu la pandémie. Bon, ça a au minimum changé deux, trois trucs.
On est au moins obligé d'écrire une crise économique.
Et puis ça a vachement redéfini les personnages, surtout.
Ah oui, tiens, ce serait pas mal de faire un point sur les personnages.
Attends, je change de page, sinon on va pas s'y retrouver. Alors...
Bon, ben on a les classiques, Macron, Castex, Le Drian, Blanquer, qui d'autre? Darmanin...
Je fais une grosse bulle, gouvernement français.
Ouais. Voilà.
Bah, les personnages politiques qui sont pas dans le gouvernement, Mélenchon, Hamon, Le Pen, etc., on complétera plus tard. Et les personnages politiques étrangers, Merkel, Trump, Johnson, Kim Jong-un, pareil, enfin, on complétera plus tard, quoi.
Oui, oui.
Donc, si on reste sur un monde d'après qui serait une suite directe du monde d'avant, c'est toujours eux les personnages principaux, j'imagine.
En fait, c'est bizarre parce qu'il y a un truc qui marche plus.
Je crois qu'on leur a fait dire trop de conneries dernièrement.
Tu crois?
Bah ouais, avec toutes ces histoires là de masques qui marchent pas et puis qui marchent et puis en fait il y en a plus mais finalement si les festivals ruraux avec open bar au gel hydroalcoolique, le jambon et le fromage qui chevauchent le tigre, Trump qui veut soigner les gens en leur faisant boire de l'eau de Javel.
Ça, oui.
Merde, t'as raison.
Ouais, c'est devenu des personnages humoristiques.
On a tellement été obligé de meubler pendant le confinement qu'on a bousillé nos personnages principaux. Vous avez dit que c'était une fausse bonne idée, ce putain de confinement.
Oui, bah c'est comme ça. Écoute, on peut rien y faire. Maintenant, il faut qu'on trouve de nouveaux protagonistes.
Le professeur Raoult?
Non, Raoult, c'est moi qui l'ai inventé. Non, il est pensé comme un second rôle un peu rigolo. Hein. Et en plus, il est joué par le mec qui faisait Corbier du Club Dorothée. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et quand ils ont fait mourir Corbier, il a eu une petite traversée du désert. Du coup, je lui ai proposé Raoult. J'adore son boulot, mais non. Je trouve qu'il n'est pas crédible en nouveau maître du monde.
On pourrait chercher du côté du péril islamique.
Oh, bof bof, hein, on s'en fatigue un peu du péril islamique. Le 11 septembre, ça fait presque 20 ans. Là, ça commence à tourner un peu en rond.
20 ans? Enfin, c'est fou comme ça passe.
De toute façon, en ce moment, les équipes qui bossent sur Daesh et Al-Qaïda sont mises d'accord pour pas faire émerger de figures charismatiques après la mort de Ben Laden et d'Al-Baghdadi.
Ah ouais? Voilà.
Ah mais je crois qu'ils essaient de développer un truc autour de la menace sans visage. Un peu film d'horreur des années 80. Ça marche bien d'ailleurs, hein, mais bon, bah, c'est difficile de trouver un protagoniste là-dedans.
En revanche, on a tous les personnages de milliardaires de la Silicon Valley.
Ah mais bien sûr!
Jeff Bezos qui va devenir trilliardaire grâce à Amazon. Bill Gates qui décide tout seul de financer le vaccin.
BlackRock, là, Larry Flint, qui pompe les économies de Tivio.
Le type qui a inventé Zoom, comment il s'appelle?
Eric Yuan.
Eric Yuan, Zuckerberg et Facebook, enfin voilà, toute cette clique-là, ça pourrait pas être eux, les nouveaux personnages principaux?
Ah mais c'est sûr que ça va être eux, mais c'est chiant parce qu'ils sont tous américains.
Bon, ça change pas en termes de storytelling, les Américains, ils auront toujours un train d'avance.
Et Yuan, il est américain?
Naturalisé.
Ah oh, merde.
Sinon, on pourrait pas essayer une contre-proposition française ou européenne? Une nana. Une nana, ça serait bien.
Ah ouais, on n'a pas une milliardaire qui traîne, là?
Attends, je regarde. Alors, la femme milliardaire la plus riche, c'est Françoise Bettencourt. Elle fait pas trop Nouveau Monde.
Ah oui, non.
Après, c'est que des Américaines. Ah tiens, il y a même l'ex-femme de Jeff Bezos.
Il y a vraiment que les Américains pour imaginer un personnage tellement riche que son ex devient milliardaire rien qu'avec la pension alimentaire.
On a Yang Wuyan, elle est chinoise, mais elle est bien. Elle n'a même pas 40 ans et à 26 ans, c'était la personne la plus riche du pays.
Elle fait quoi?
PDG de Country Garden. J'arrive pas bien à comprendre ce que c'est.
Mais c'est bien ça. C'est comme BlackRock. Moins on comprend ce que c'est, plus ça fait peur.
Faudrait qu'on voit avec l'équipe de prod chinoise si on peut bricoler un truc.
On pourrait réfléchir à un mariage avec un personnage français. Genre Carlos Ghosn.
Ah non. Non, j'ai pas mal bossé sur Ghosn en début d'année. Non, non. Avec les autres scénaristes, on avait réussi à lui écrire une jolie love story avec sa femme. Donc si vous êtes d'accord, voilà, j'aimerais bien qu'on n'y touche pas.
Xavier Niel?
Ah bah oui, c'est bien. Il est jeune, il est riche, il est dans le numérique. C'est parfait.
Attends, on l'a pas déjà marié avec la fille de Bernard Arnault, lui?
Un marié, ça divorce.
On sait qui est l'auteur de... Comment elle s'appelle déjà?
Yang Wuyan.
On sait qui est l'auteur de Yang Yan ?
Non. Là, je suis sur la base de données chinoises. C'est tout en mandarin, j'y comprends rien.
On connaît quelqu'un qui pourrait nous renseigner ?
Je suis pote avec un assistant scénariste des manifs de Hong Kong. On joue au poker en ligne tous les jeudis. Je promets rien, hein, mais je peux lui en toucher deux mots.
Bah, super. Ok, bon. L'appel à projet se termine à la fin du mois. La prod veut une note d'intention la semaine prochaine pour avoir le temps d'affiner. On est d'accord qu'on part sur une prolongation du monde d'avant, avec cataclysme périodique permettant glissement progressif vers un monde d'après à tendance post-apocalyptique avec éventualité de fin du monde à l'horizon 2050, et proposition d'un genre de couple Macbeth maître du monde avec Xavier Niel et Yang Huan. Colline, je te laisse voir avec ton copain de poker si on peut envisager un partenariat avec une prod chinoise.
Ok.
On se retrouve demain 10h, ce serait bien que chacun vienne avec une proposition de crise économique. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe ? Voilà, ce genre de questions.
Ok.
Ok. Voilà. Bon. Ça va, Thibaut ? Ça, je te trouve vachement tendu.
Ouais, non, ça va.
Je sais pas, t'as besoin d'un peu de repos ?
Non, non, c'est ça, c'est dur. J'ai arrêté de fumer. Et du coup, je m'énerve vachement. Et puis je trouve que la prod nous traite pas bien. J'ai l'impression qu'ils considèrent plus notre travail.
Ouais, bah, tu sais, c'est le bordel en ce moment.
Ouais. Tu connais Abdel, toi ?
Ton pote saoudien ?
Ouais.
Ouais.
Mais il va pas bien du tout, là.
Ah bon ?
Ah non, il va pas bien. Il pense aller voir le syndicat. Il est en plein burn-out.
Ah merde.
Il est à la tête d'une équipe. Ça faisait des années qu'il se coordonnait avec les Russes et les Américains pour mettre en place la crise du pétrole.
Ouais.
Bon, on leur a mis une pression de dingue pour qu'ils en fassent l'événement majeur de 2020, le gros blockbuster de la décennie. Et au moment où ça devait péter, les Chinois nous ont imposé le Covid. La crise pétrolière, c'est devenu un pauvre arc narratif secondaire, des années de boulot, pap, aux chiottes. Alors Abdel, il est tombé en dépression, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas sorti de son lit.
Ah ouais.
Et sa femme, elle est sur point de partir avec les gosses, t'imagines ? Et moi, ça me met en colère, mais tu peux même pas imaginer, quoi. On est hyper maltraité et tout le monde s'en fout.
Mais ouais, je sais bien, je comprends.
Attends, moi, avant tout ça, je bossais sur les municipales, tu te rappelles ?
Ouais.
Bon, j'avais fait un boulot d'orfèvre avec Villani, Griveaux, la sextape, tout ça.
C'était super.
C'était bien, mais bah, d'un coup, on m'a dit de tout foutre à la poubelle, tu vois ?
Ouais, je sais bien.
Mais d'un coup, comme ça, voilà.
Bah, tu veux qu'on aille boire une petite bière ?
Ouais, je veux bien. Et...
super, Griveaux.
Non,
super.
Mais voilà, je suis...
Où est-ce que t'allais chercher ?
Je sais pas, tu vois, j'ai...
Le Poule, de Gaspard Chauvelot. Réalisation, Laure Egorov. Le générique complet est à retrouver sur franceculture.fr.
Vous retrouverez un prochain épisode de Fiction Imagine demain. C'est l'heure de la chronique de François Sureau, La scène et nos amours. Aujourd'hui, le poète et boxeur Arthur Cravan.
Qu'il vienne, celui qui se dit semblable à moi, que je lui crache à la gueule. Cette phrase d'un des grands révoltés du siècle, qui a été Arthur Cravan, que André Breton nous a fait découvrir, à l'époque où il nous faisait découvrir également Jacques Vacher, c'est une phrase que je voulais citer au moment où nous allons rendre visite à Arthur Cravan, exactement comme lui-même, quelques années auparavant, s'était rendu célèbre par une visite à André Gide, qui est une des visites les plus drôlatiques qu'on puisse lire et dont je vous parlerai ensuite. Nous sommes au kilomètre 271 depuis Source-Seine, et c'est à ce kilomètre 271, au 11 bis de la rue Delambre, à Montparnasse, que je vais vous emmener à la rencontre d'Arthur Cravan. C'était un personnage tout à fait étonnant, qui était le neveu, paraît-il, d'Oscar Wilde, du moins le prétendait-il. On n'a jamais su la mesure dans laquelle il était mythomane et la mesure dans laquelle il était simplement poète. C'était le neveu d'Oscar Wilde et le fils d'un Queen's Counsel, c'est-à-dire d'un avocat auprès de la reine Victoria. Il s'appelait de son vrai nom Fabian Avenarius Lloyd et pas du tout Arthur Cravan. Il a pris ce nom de Cravan d'après sa première petite amie française avec laquelle il a vécu dans les années 1900 et qui habitait ici, au 11 bis rue de Lambre. Et c'est Mademoiselle Cravan qui a donné naissance à Arthur Cravan et à son mythe. Il était né en 1887 à Lausanne, il était à moitié suisse et il s'est d'abord fait connaître par ses talents de boxeur. Il a même été champion de France des mi-lourds. Il boxait et en même temps il écrivait des poèmes. En même temps, il était critique d'art, il avait créé une revue qu'il distribuait lui-même dans une charrette à bras. Cette revue s'appelait Maintenant et il expédiait l'art moderne avec une vivacité, une drôlerie absolument irrésistible. C'était un personnage grand, beau, très anglais, à moitié dingue, qui a fasciné beaucoup de peintres de son temps, qui a fasciné Picabia, qui a fasciné de très grands critiques comme l'anarchiste Félix Fénéon par son énergie et sa drôlerie irrésistible. Quand il parlait des peintres, par exemple, il pouvait dire des choses très exactes sur Kiesling ou sur Metzinger, et puis de temps en temps, certains peintres attiraient sa verve comme Sonia Delaunay ou plus spécialement Marie Laurencin qu'il avait voué aux pires outrages sexuels, ce qui lui a valu de se faire défier en duel par Guillaume Apollinaire. Et derrière cette modernité, cette première modernité qui annonce Dada, qui annonce le surréalisme, derrière cette violence, derrière cette espèce de nihilisme, affleure une grande amertume qui le rend profondément fraternel et sympathique. Moi, à qui il suffit d'un air de violon pour me donner la rage de vivre, moi qui pourrais me tuer de plaisir, mourir d'amour pour toutes les femmes, je suis ici parce que la vie n'a pas de solution. Il était, je le disais, devenu l'ami de Fénéon, ce dandy anarchiste des années 1890, qui était par ailleurs employé dans un bureau de l'administration où il écrivait des articles de code avec une plume d'une sûreté stendhalienne. Fénéon, qui a découvert à la fois Apollinaire et l'art nègre, qui a véritablement été un très très grand précurseur du monde nouveau et qui avait été traîné en justice en 1894 parce qu'il avait manifesté des sympathies pour les anarchistes. Et c'était l'un des amis les plus proches de Cravant, et on peut penser que Cravant l'a reçu ici, au 11 bis rue de l'Ambre, à de nombreuses reprises. Cravant, en dehors de ses activités de critique d'art, était également un poète. Il avait inventé une forme dont il attendait énormément de choses, qui était le prosopoème, qui était quelque chose de plus qu'un poème en prose. Et en réalité, ce qu'il écrit ressemble beaucoup à ses deux grands rivaux, à ceux qu'il considérait comme ses deux grands rivaux, qui étaient Apollinaire et Sandrart. Des palmiers et des tours, manufacture, comme un beau charbonnier. En 1913, il se rend célèbre par une visite qu'il publie dans sa revue Maintenant, que Breton a reproduite, si je me souviens bien, dans son anthologie de l'humour noir, qui est une extraordinaire visite à André Gide rue Vaneau. Gide est à l'époque le personnage omnidominant des lettres françaises, le Bouddha chinois de la NRF, à la fois extrêmement libre et extrêmement précautionneux. Et Cravant lui rend visite et il donne de cette visite une relation absolument extraordinaire, d'une ironie absolument épouvantable, où il imagine d'ailleurs que, séduisant Gide grâce à sa belle apparence, ils partent tous les deux comme une sorte de couple gay moderne, et que Gide, payant les coupés de première classe et les ânes, ils arpentent la côte des Somalies en quête d'aventure masculine, ce qui était quand même une forme d'outing de Gide, qui était, malgré Coridon, d'une assez grande violence à l'époque. Cravant avait écrit « Qu'on le sache une fois pour toutes, je ne veux pas me civiliser ». Et la fin de cette visite est restée absolument célèbre par le quiproquo qu'elle contient, puisque Cravant, quittant Gide, lui dit « Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ?» Et Gide, évidemment, comprenant qu'on lui demande simplement l'heure, alors qu'il était question de lui demander une pensée métaphysique, répond qu'il est 5h moins le quart, sur quoi Cravant prend sa plume et ses crayons et s'en va. Vient la guerre, Cravant quitte la France, il quitte les provoques individuelles et à l'heure des grandes provoques collectives, et il prend un bateau pour New York, et sur ce bateau, il rencontre Léon Trotsky, qui l'a raconté dans sa correspondance et qui explique qu'il est tombé face à un homme tout à fait étonnant, qui expliquait qu'il préférait boxer à titre individuel et non pas boxer dans le grand système de boxe des nations. Ensuite, il arrive très pauvre. Il vit grâce à un galeriste à New York. Il dort à Central Park parmi les écureuils. Et pour finir, il part pour le Mexique. Il arrive à Mexico et à Mexico, il donne des cours de boxe puisqu'après tout, il était champion de France de boxe et que c'était sa grande spécialité. Il racontait dans un de ses poèmes qu'il aimait bourrer ses gants de boxe avec des boucles de femmes. Et puis après avoir enseigné quelque temps à Mexico, il s'embarque pour Veracruz afin d'y disputer un combat régional de l'Amérique latine. Et c'est là qu'il disparaît, à peu près au même moment qu'Apollinaire, dans le golfe du Mexique en novembre 1918. Breton a écrit sur cette disparition des choses émouvantes. Et en les lisant, on pense à cette phrase qui a été celle de Cravant, de celle de cette étrange destinée inaboutie. L'homme n'est si infortuné que parce que 1000 âmes habite un seul corps.
On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été consacrée à Marlon Brando et au motif de Lille au cinéma. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Shushan Jergaillan, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Lise Combe, à la technique Marie-Claire Oumabadi. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécouté en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.
France Culture, l'esprit d'ouverture.